Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le 20e numéro hors série du Monde des Religions est en kiosque et il s'intéresse à un sujet qui intéresse Franck Ferrand, les sociétés secrètes. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons parler en effet des grands initiés, nous allons parler d'enseignements immémoriaux, de mystères, de savoirs cryptés cet après-midi et nous nous attarderons notamment sur la Rose-Croix et sur un des plus étonnants adeptes de cette société, l'étrange comte de Saint-Germain dont je vais vous raconter l'histoire.
Pour lever un coin du voile sur ce monde méconnu, vous avez invité deux grands experts.
Oui, nos auditeurs connaissent bien Alexandre Adler. Il intervient tous les soirs à 18h30 sur notre antenne aux côtés de Nicolas Poincaré. Quant à Mohamed Taleb, il a collaboré à ce numéro hors série du Monde des Religions. Il y évoque notamment la Golden Dawn, un ordre hermétique né en Angleterre à la fin du 19e siècle et dont l'influence a été considérable.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ces derniers temps de vous promener dans une grande librairie ou dans un centre culturel commercial. Si c'est le cas, vous y avez sans doute vu comme moi les monceaux d'exemplaires du dernier ouvrage de Dan Brown, Inferno. Ce romancier américain, il y a 10 ans, devait marquer l'histoire de l'édition avec Da Vinci Code, des dizaines et des dizaines de millions de livres vendus dans le monde, une foule infinie de lecteurs découvrant l'existence réelle ou supposée de cette organisation secrète du prieuré de Sion censée regrouper Templiers, Rose-Croix et autres initiés. On est là dans le folklore, évidemment, et dans la mythification volontaire d'un phénomène, par ailleurs bien réel, celui, c'est l'existence enracinée dans la nuit des temps, de savoir hermétique, accessible seulement au terme d'un parcours d'initiation, des savoirs entretenus par des sociétés que l'on dit secrètes, mais qui, pour la plupart d'entre elles, se veulent simplement initiatiques. La généalogie de ces prétendues sociétés secrètes remonte très haut, à l'Antiquité égyptienne et mésopotamienne, peut-être même plus haut encore. Pour nous en tenir à des temps historiques mieux connus, laissez-moi vous rappeler l'importance dans le monde grec antique des grands cultes à mystère. Apollon, dieu tutélaire des grands secrets, et son prêtre Orphée, le père des mystères, ont institué ces cultes hermétiques. Hermétiques car accessibles seulement donc à des initiés qui, étape par étape, à l'occasion d'épreuves vécues comme autant de révélations, découvrent degré par degré les secrets de la divinité. Autant dire, dans un langage plus contemporain, des règles de vie et de compréhension du monde de plus en plus universelles à mesure qu'on s'élève en grade. Tout cela est évidemment entouré de rites plus ou moins singuliers, fondés sur le serment et sur la cooptation. Certains mystères sont ouverts, comme ceux de Samothrace, par exemple, qui accueille hommes, femmes, jeunes, vieux, libres ou esclaves. Du reste, l'initiation rituelle de Samothrace, à 2 degrés seulement, relève plutôt de la cérémonie purificatrice et propitiatoire. Et puis, il y a d'autres mystères, beaucoup plus hermétiques, et qui obéissent, eux, à des conditions, à des règles, à des rituels infiniment plus contraignants. Et le plus célèbre, évidemment, ce sont les mystères d'Éleusis. Le culte de Déméter à Éleusis, Éleusis c'est pas très loin d'Athènes, et du reste le voisinage de la grande cité a joué un rôle majeur dans le succès de ces mystères. Le culte de Déméter, les rites qui s'y déroulent sont demeurés si secrets qu'en dehors de quelques éléments sur les cérémonies sacrées fournies par des hymnes homériques, on ne sait quasiment rien des épreuves que subissaient les initiés, on les appelait les éptoptes. Heureux celui des hommes vivant sur la terre qui a vu ces mystères, proclame l'hymne à Déméter, mais celui qui n'a pas été initié et celui qui n'a pas pris part au rite n'auront pas après la mort les bonnes choses là-bas dans les sombres séjours. Les mystères ont été célébrés à Éleusis pendant près de 2000 ans et, nous explique Mircea Eliade, il est très probable que certaines cérémonies aient été modifiées au cours du temps. comme les premières étapes de l'initiation n'exigeaient pas le secret, c'est évidemment celle que l'on connaît. Elles correspondent à ce qu'on appelle les petits mystères, venaient ensuite les grands mystères, puis les télétés, enfin l'expérience suprême de l'épopthéia, et personne jamais n'a divulgué en quoi cette épopthéia pouvait bien consister au fond. Vous imaginez bien que les savants depuis tant de siècles ont multiplié les recherches pour essayer d'en savoir davantage, ne serait-ce que par allusion dans tel ou tel texte, telle ou telle œuvre. Foucard a estimé que l'initiation devait comporter une déambulation au sein des ténèbres, diverses apparitions sans doute terrifiantes et puis l'entrée brutale dans une zone très illuminée. Mais lorsqu'on a cherché sur place, les archéologues n'ont rien trouvé de très précis. Y avait-il un repas sacramentel au moment de l'initiation suprême ? Peut-être y avait-il prononciation de formules rituelles ? Oui, très probablement. On sait, dit Mircea Eliade, que la vision finale, l'épopthéia, s'effectuait dans une lumière éclatante. Plusieurs auteurs antiques parlent du feu qui brûlait dans le petit édifice, l'Anactoron, et dont les flammes et la fumée s'envolant par l'ouverture du toit étaient visibles de loin. Et il ajoute « On peut admettre que les mystères d'Éleusis étaient solidaires d'une mystique agricole et il est même probable que la sacralité de l'œuvre sexuelle, de la fertilité végétale et de la nourriture modela au moins en partie le scénario initiatique. Dans ce cas, il faut supposer qu'il s'agissait de sacrements à moitié oubliés et qui avaient perdu leur signification première. » Cependant, ajoute-t-il, il est difficile de croire que l'initiation suprême se limitait à une anamnèse des sacrements classiques. Éleusis avait certainement découvert une nouvelle dimension religieuse et les mystères étaient surtout réputés pour certaines révélations. On y revient, et constamment. Des révélations qui ne vont pas, naturellement, sans un grand secret, et un grand secret qui, tant de siècles plus tard, continue de stimuler notre imagination et d'alimenter nos fantasmes.
De la deuxième valse de Shostakovich interprétée par The Tbilisi Symphony qui sert également de bande originale du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. A tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Alexandre Adler, historien spécialiste des relations internationales. Vous le retrouvez dans Europe 1 Soir à 18h30 dans Le Monde selon Adler. Et puis Mohamed Taleb est philosophe et écrivain, auteur notamment de Science et Archétypes, fragments philosophiques pour un réenchantement du monde aux éditions Dervy.
Bonjour à tous les deux. On peut dire, Mohamed Taleb, que la couverture du Monde des religions, de ce hors-série, avec tous les noms de ces sociétés dites secrètes, Rose Croix, franc-maçon, Golden Dawn, Société Tulé, secte sataniste, et puis bien entendu les Templiers, les Kabbalistes, etc. Tout ça fait rêver. On est vraiment dans ce qui intrigue depuis toujours l'opinion. Finalement, les gens adorent ces questions sulfureuses.
Justement, ça les fait rêver et puis en même temps, ça nous conduit vers des cauchemars. Donc il y a une ambivalence de cette fascination. C'est pour ça que l'immense majorité de ces groupes, les groupes qui sont sur la couverture de ce hors-série, ne se définissent pas comme des sociétés secrètes. Il faut bien savoir que c'est un terme qui a été forgé à un moment précis pour dénoncer précisément ces sociétés qui ont une finalité, le plus souvent, mais pas toujours, une finalité initiatique ou spirituelle.
Quand vous dites forger à un moment précis, c'est forgé vers la fin du 19e siècle, c'est ça ?
Oui, fin 19e, début 20e, notamment avec...
Dans un contexte catholique, donc.
Absolument, notamment avec une revue qui va exister pendant quelques années, qui va s'appeler la Revue internationale des sociétés secrètes, effectivement, dans un milieu catholique assez conservateur, réactionnaire, et qui veut révéler précisément les complots ourdis par ces sociétés secrètes. Mais je veux bien que l'immense majorité de ces organisations initiatiques ne se disent pas secrètes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secrets, mais ça renvoie plus à des modes de transmission, ça renvoie plus à l'ésotérisme qu'à un aspect sulfureux qui nous fait aller assez vite dans le sensationnel.
Oui, voilà. Mais enfin bon, en même temps, on aime bien ce frisson-là, évidemment, et on sait à quel point ces sociétés ont pu faire fantasmer, on peut dire, beaucoup de romanciers, notamment, on va y venir vers la fin de cette émission. Alexandre Adler, je parlais pour commencer des mystères d'Eleusis et de tous ces anciens cultes à mystères de l'Antiquité grecque, notamment, certains d'ailleurs directement reliés à l'Égypte ou à la Crète, enfin bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Ces mystères anciens ont-ils un rapport avec les rites et avec les sociétés plus contemporaines, enfin plus récentes?
À mon avis, très indirect, car la transmission entre l'Antiquité et la fin du Moyen-Âge ne s'est pas faite. Tout simplement, les invasions barbares...
Contrairement à ce que prétendent certaines sociétés.
Bien sûr, d'ailleurs, voilà, mais même la franc-maçonnerie raconte qu'elle peut trouver une lointaine origine dans l'initiation des artisans romains. Bon, tout ça n'a absolument aucun fondement historique. Mais quand j'ai dit indirect, c'est parce que finalement, c'est dans le monde de l'islam que l'initiation a survécu à notre Moyen-Âge. Et en particulier, nous avons bien sûr une initiation qui est plutôt bon enfant, celle des confréries soufis, des tarikats, dans lesquelles on rentre et on est amené à un apprentissage qui n'est pas très, très, très sévère ni très violent. Mais évidemment, il y a aussi à l'intérieur de l'islam des mauvais pensants, des dissidents qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent dans des sociétés secrètes. Et la plus importante, évidemment, c'est le chiisme révolutionnaire, l'ismaélisme révolutionnaire, dont le vieux de la montagne a été à un moment donné le grand chef à Alamout en Iran, et qui, à un moment ou à un autre, a influencé un certain nombre de militants et d'adhérents, avec bien sûr les choses spectaculaires qu'on connaît, mais surtout une doctrine initiatique. Et à mon sens, c'est évidemment cet islam initiatique qui est entré en contact avec les croisés et avec la chrétienté espagnole. Et c'est de ce côté-là qui est venu, en effet, tardivement.
Le passage, la transmission indirecte, voilà, dont vous parliez.
Beaucoup plus que de l'Antiquité proprement dite.
Ça, c'est l'islam.
Le soufisme, lui, vient de l'Antiquité.
Ça, c'est l'islam initiatique. On va évoquer, bien entendu, le judaïsme initiatique avec ce corpus de savoir plus ou moins crypté, cet enseignement initiatique qu'est la Kabbale.
Europe 1. Assurance, entretien, essence, ce n'est un secret pour personne. Avoir une voiture coûte cher. Aujourd'hui, Elena et ses experts vous permettront de faire le plein de trucs et astuces pour réduire votre budget auto pour l'été dès 14h. N'hésitez pas à réagir au standard 3921, 34 centimes d'euros la minute.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Extrait sur Europe 1 de la bande originale du film américain The Skulls, les sociétés secrètes réalisées par Rob Cohen, Franck.
Alors, avant d'entrer dans le détail des sociétés secrètes, justement, et de voir quelles ont été les principales et quelle a été leur évolution, j'aimerais qu'on revienne sur les bases, sur les fondements textuels, en quelque sorte, des grands savoirs ésotériques. Et le principal, peut-être, de ces fondements, de ces enseignements, c'est la Kabbale. Alors, comment la définir, cette Kabbale, Mohamed Taleb?
Alors, c'est définir quelque chose qui ne peut pas être défini, oui, parce que précisément dans ces milieux culturels et spirituels, il y a l'un des soucis le plus important, c'est l'interprétation. On renouvelle les interprétations. Chaque génération, en quelque sorte, reconfigure toutes ces données culturelles, littéraires, religieuses qui nous viennent du passé. Et de la même façon que ces sociétés initiatiques vont se construire des généalogies, des filiations, eh bien, les textes eux-mêmes vont être inscrits dans des temporalités fictives ou non. Alors, dans le cadre de la Kabbale, je pense qu'il faut élargir par rapport à ces sources, à ces bases des sociétés secrètes. Moi, il me semble que l'un des traits les plus importants dans les enseignements, et on verra que la Kabbale joue un rôle spécifique, c'est que l'un des traits les plus importants de cet univers des sociétés secrètes initiatiques, c'est dans l'idée qu'il y a une concordance, qu'il y a un accord primordial entre les dimensions ésotériques de toutes les traditions culturelles, religieuses et métaphysiques de l'humanité. Mmh. Ce qui fait que ce qui apparaît comme un syncrétisme lorsqu'on entre dans la littérature des sociétés secrètes est d'abord pensé par ces sociétés comme l'affirmation d'une unité, d'une tradition qui n'est pas d'abord liée au judaïsme, au christianisme, à l'islam ou aux diverses philosophies antiques, égyptiennes ou grecques, mais c'est d'abord lié à une sorte de tradition première, une sorte de tradition primordiale, ou bien d'une tradition universelle qui continue dans le temps.
Cette cabale, pour essayer de la définir, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la question, on dit cabale, c'est K-A-2-B-A-L-E, hein, c'est la cabale dont on parle. Oui. Cette cabale, c'est une forme d'interprétation du monde à partir des lettres de l'hébreu. Comment est-ce qu'on pourrait la définir?
Il y a plusieurs entrées, puis la cabale s'est élaborée à travers le temps. Mais la première chose qui est intéressante, c'est que la cabale apparaît, je ne dirais pas tout armé, parce qu'on voit bien qu'il s'est fait des ajouts, mais elle apparaît à un moment donné de l'histoire du judaïsme, alors qu'il y a certainement des textes mystiques auparavant, mais qui n'ont pas une grande importance, qui n'ont pas la même importance. Et quand intervient-elle, la Kabbale, plutôt de l'an 1000, et non pas du tout dans les aires traditionnelles du judaïsme, mais en Gaule, c'est-à-dire en France du Sud, à Narbonne, dans un endroit qui s'appelle Vauvert, qui a donné le diable Vauvert, qui s'appelait Posquière. De là, elle traverse l'Espagne, elle va devenir vraiment la culture dominante du judaïsme espagnol. De là, et bien entendu, elle sème un peu partout. Alors cette cabale ne fait pas l'unanimité. Vous avez toujours eu dans le judaïsme des gens qui considéraient que c'était un fatras de superstition dangereuse. Mais enfin, son cœur, c'est une doctrine qui se distribue effectivement entre la géométrie, la guématria, l'interprétation des lettres, mais aussi d'autres, et qui semble avoir été transmise, c'est le terme de cabale, sans intermédiaire, et c'est celui d'une espèce de conception du monde dans laquelle, au-dessus de notre monde, nous avons une espèce de géométrie supérieure, où 12 entités principales, plus une troisième, représentent le champ de force de la nature. Alors, elles se distribuent ensuite, on les retrouve du ciel vers la terre. À la fois, on peut étudier de cette manière-là le caractère psychologique, les relations entre les nations, mais aussi les relations entre les forces fondamentales cosmiques. Alors, il y a encore des élaborations.
C'est une forme de prisme siècle. Ou de matrice, en quelque sorte.
Voilà, c'est une sorte de calcul matriciel du réel qui dépasserait l'expérience. C'est ce qui choque, évidemment, dans la Kabbale. Mais celle-ci a développé des idées qui sont ensuite devenues le bien commun. Par exemple, que l'univers est mathématisable. Que l'univers, que la mathématique est le... Et bon, on a l'impression qu'il y a là une synthèse de sagesse antique, y compris égyptienne, et d'élaboration propre à des communautés juives du Moyen-Âge, mais tout ceci finalement cristallise dans une doctrine qui est d'autant plus nécessaire au judaïsme que l'étude du Talmud, c'est-à-dire le commentaire de la loi, apparaît comme une discipline un peu asséchante et insuffisante.
Alors, quels peuvent être éventuellement les liens entre ce corps de doctrine et des éléments d'initiation pour des sociétés? C'est ce que nous voyons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous proposons aujourd'hui sur Europe 1 une émission en partenariat avec le monde des religions. Un numéro hors série consacré aux sociétés secrètes est actuellement disponible en kiosque. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce monde plein de mystères et d'ombres, n'hésitez pas, la page Facebook de Cœur de l'Histoire.
Et nous sommes là pour répondre à vos questions, évidemment, avec Mohamed Taleb et avec Alexandre Adler. Alors, nous évoquions rapidement la cabale, Mohamed Taleb. Quand je dis rapidement, nous ne faisions vraiment qu'effleurer le sujet. Mais est-ce qu'on peut dire que ce corpus de savoir, cette façon d'envisager le monde, a donné naissance elle-même à des rites et à des sociétés constituées? Est-ce qu'il y a des sociétés secrètes qui sont fondées sur la cabale?
Les sociétés secrètes ne vont jamais s'appuyer sur une source particulière. Voilà. La cabale, ou en tout cas un certain nombre d'éléments de la cabale, une cabale qui va être d'ailleurs réinterprétée au moment de la Renaissance, notamment en Italie avec Pic de la Mirandole et d'autres humanistes qui vont élaborer une cabale chrétienne. C'est sous ce terme que cette réinterprétation va circuler. Et c'est de la Kabbale juive à la Kabbale chrétienne, en lien avec d'autres courants culturels, l'un des principaux qui nous vient de l'Antiquité et qui va jouer un rôle majeur dans justement l'élaboration doctrinale de ces courants, c'est toute l'école néo-platonicienne qui jouera un rôle important, notamment en Angleterre au 19e et au 20e siècle.
On va y venir tout à l'heure, bien sûr.
Toute l'école de l'alchimie également. Tradition gréco-égyptienne qui remonte à l'Antiquité, la tradition d'Hermès, vous parliez d'hermétique tout à l'heure en disant que c'était synonyme d'un savoir accessible aux seuls initiés. Hermès fait d'abord référence à un dieu légendaire, à une figure légendaire, Hermès Trismégiste, qui est à l'origine d'un puissant courant intellectuel avec pendant plusieurs siècles, une littérature qui va s'élaborer, un corpus hermeticum. Il y a bien sûr l'astrologie, il y a y compris des traditions donc qui sont propres à l'islam. On a cru à un certain moment à des influences qui venaient de l'Inde ou du bouddhisme, mais ça c'est relativement tardif, c'est plutôt l'époque contemporaine. Bref, en fait, les sociétés secrètes qui vont se constituer, notamment à partir du XVIIe siècle, et l'une des premières d'entre elles, c'est bien sûr le mouvement rosicrucien ou la mouvance rosicrucienne plus que de la société secrète Rose-Croix, eh bien, ces sociétés vont s'appuyer, vont métaboliser, vont digérer des rites, des enseignements, des langages, des façons d'envisager le monde, pour reprendre votre formule, et qui sont originaires, voilà, de toutes ces matrices qu'on a évoqué précédemment, qui sont autant de courants culturels.
C'est assez passionnant de voir ces courants qui sont en quelque sorte des courants souterrains de la pensée humaine, hein, qui peu à peu vont émerger, vont donner naissance à un certain nombre de sociétés. Et l'une de celles qui vont tenter de synthétiser les autres, la peut-être la plus importante, c'est précisément ce mouvement rosicrucien dont vous parlez, la Rose-Croix, Alexandre Adler.
Oui, alors nous avons une grande historienne, heureusement, de ce mouvement, c'est Frances Yates, une historienne britannique, Dame Frances Yates, puisqu'elle a été anoblie par la reine, qui a passé sa vie entière à étudier la Rose-Croix. Moi, j'ai l'opinion la suivante, c'est qu'ayant été la collègue d'Anthony Blunt et d'un certain nombre de ses amis à l'Institut Courtauld, qui étaient des agents soviétiques, elle a été fascinée par les sociétés secrètes parce qu'elle en avait une sous le nez. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Ce que je pense, en tout cas, c'est que Frances Yates a mis au jour l'existence, effectivement, à la fin du XVIe siècle, de deux mouvements concordants. D'une part, une malpensance généralisée. J'emploie le terme le plus vague possible parce que ce sont toutes les idées hétérodoxes qui fonctionnent, notamment à travers les académies qui naissent à ce moment-là, à travers les sociétés de pensée, et où on s'en passe de bouche à oreille un certain nombre d'idées qui font frémir et surtout qui peuvent conduire au bûcher, car l'Inquisition existe toujours. Mais en même temps, une ambition politique. Nous sommes en effet au début du déchaînement des guerres de religion. Elles commencent en France, ce sera la révolution des Pays-Bas, et enfin l'explosion nucléaire, quasiment la guerre de 30 ans qui dévaste l'Allemagne. Ce phénomène amène beaucoup d'intellectuels, c'est le terme est un peu anachronique, mais c'est bien cela dont il s'agit, en Europe tout entière, à réfléchir aux conditions de ramener la paix religieuse. Et effectivement, il y a une nostalgie pour Erasme, le grand humaniste de Rotterdam, mais il y a finalement une émergence dans différents secteurs européens de sociétés qui ne sont pas unifiées, mais qui toutes veulent essayer de transcender la position entre le catholicisme et le protestantisme, et donc le protestantisme radical et dogmatique d'un côté, bien entendu l'enseignement catholique tel qu'il sort du Concile de Trente. Et alors on voit apparaître ainsi des sociétés en Allemagne d'abord, c'est les fondateurs Johann Valentin André, etc., qui donnent les premiers textes, mais bien entendu aussi en Angleterre, mais aussi en France, mais aussi en Italie. Giordano Bruno, par exemple, qui va être brûlé sur le Campo dei Fiori, est évidemment n'a pas dû ce châtiment uniquement à ses théories physiques qui présagent Galilée, mais beaucoup, bien sûr, à son activité d'espion que Frances Yates a entièrement dévoilée au service du roi de France Henri III et de la reine Élisabeth. Et il était devenu l'ennemi, évidemment, de la contre-réforme italienne. Alors, justement, la Rose-Croix, à son apogée, a essayé d'unifier des groupes tout à fait indépendants. À Venise, des kabbalistes chrétiens qui étaient hostiles au Concile de Trente, comme Zorzi ou Paolo Sarpi. En Allemagne, des luthériens qui se réclamaient de Melanchthon l'ami, puis ensuite le contestataire de Luther, qui voulait que le protestantisme reste humaniste et ouvert. En Angleterre, des groupes qui sont permanents dans la vie politique et culturelle anglaise jusqu'au début du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, ils vont essaimer et former la Royal Society, dans laquelle on trouve Newton et d'autres. Et en France, semble-t-il, le jansénisme. C'est-à-dire que le jansénisme, qui est une espèce de protestantisme interne au catholicisme.
Oui, on en parlait il y a quelques jours.
Et qui cherchait la réunification de l'Église. Le jansénisme a donné un certain nombre d'adeptes à la Rose-Croix. Personnellement, je pense que Nicolas Pavillon, qui était le directeur de conscience de Pascal et un homme très important de la vie religieuse, était un Rose-Croix organisé. On prétend que Descartes l'a été, j'en doute pour ma part, mais en tout cas, ce mouvement a pris aussi une certaine forme en France.
Pourquoi cette dénomination? D'où vient ce nom de Rose-Croix, Mohamed Taleb?
Ah, ben, c'est deux emblèmes, pas deux emblèmes, c'est deux images archétypales presque de la culture européenne. Faut pas oublier que dans les trois textes de 1914, 1915, 1916, qui lancent non pas la société initiatique, mais en tout cas le mouvement ou la mouvance, il y a une affirmation très nette du caractère chrétien. La Rose-Croix, bien évidemment, on voit la dimension chrétienne. L'un des thèmes majeurs de cette première littérature rosicrucienne, c'est le thème de la réforme. Et effectivement, ils s'inscrivent dans les enjeux de l'époque. Mais il y a un aspect par rapport à la Rose-Croix qui est important d'avoir en tête, c'est que... dans ce mouvement-là, il n'y a pas simplement une défiance vis-à-vis des orthodoxies protestantes d'une part et catholiques d'autre part. La question n'est pas que religieuse. Elle est aussi philosophique et métaphysique parce que cette période, ce début du XVIIe siècle, voit se constituer également les fondements de la science moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont liées au mouvement rosicrucien ou qui voient des lecteurs, ou en tout cas qui vont élaborer des œuvres convergentes, ce sont également des intellectuels, mais des scientifiques, des médecins notamment. Robert Fludd, l'anglais, est un grand médecin, et on pourrait prendre d'autres exemples. Et chez ces médecins, chez ces scientifiques, il y a l'idée qu'on peut élaborer une science alternative à la science qui est en train de se mettre en place, une science éminemment réductrice.
Parmi ceux qui ont tenté un certain nombre d'alternatives, l'un des plus célèbres des rosicruciens, c'est le mythique comte de Saint-Germain. Nous allons essayer de retrouver ses traces dans un instant.
Le récit de Franck Ferrand.
Le récit de Franck qui nous emmène maintenant sur les traces du comte de Saint-Germain.
C'est en 1758 qu'il fait son apparition sur la scène de l'histoire, tout simplement parce qu'issu, on ne sait trop d'où, il devient alors un des habitués du cercle familier du roi Louis XV. À la cour, on le repère tout de suite et on se met à parler de lui, évidemment. On ne sait pas trop quel est son âge, une petite soixantaine en apparence, toujours d'une tenue très simple, mais, nous dit Dufort de Cheverny, d'une simplicité magnifique et recherchée, à les comprendre. Très poli, homme du monde, visiblement, il a, semble-t-il, peu de relations au départ, lorsqu'il est introduit dans le cercle du roi par le frère de la marquise de Pompadour, le marquis de Marigny. Alors évidemment, on parle de lui de plus en plus. Cet homme-là est censé avoir été, on peut dire, le grand magicien de son temps. On dit qu'il change les pièces de cuivre en pièces d'or, qu'il possède le secret d'apurer les diamants et toutes les grandes pierres précieuses. Vous voyez qu'il y a un côté alchimique, pour le coup, dans le personnage, et qu'il connaît le secret de l'élixir de longue vie. Voilà où la médecine, effectivement, peut parfois être concernée. Certains affirmaient qu'il vivait depuis plusieurs centaines d'années. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je connais des gens, ils se reconnaîtront, qui sont convaincus que le comte de Saint-Germain existe quelque part. Nous allons essayer de voir un peu plus clair dans toutes ces énigmes. Cet homme n'est qu'une énigme. Le baron de Gleichen, qui l'a connu intimement et beaucoup fréquenté, nous dit qu'il s'agissait d'une sorte de prestidigitateur verbal, qu'il avait le don de captiver son auditoire, qu'il était capable d'obtenir de n'importe qui de la considération. Peut-être que la clé du personnage est là, d'ailleurs, dans cette capacité à influencer les psychismes autour de lui. Il a un très, très grand charisme. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas là de quoi en faire un plat. Bien,
Précisément, ce comte de Saint-Germain n'est pas seulement un beau parleur. Il passe pour un voyant et l'on dit qu'il a, à plusieurs reprises, bluffé Louis XV en lui révélant des choses que le roi aurait censé être, aurait été censé être le seul à connaître l'existence. Madame de Gergy nous dit que, qu'elle l'avait connu il y a longtemps. Rameau affirmait qu'il l'avait connu à Venise en 1710. Or, à l'époque où il est à la cour, on est en 1758-59, vous voyez, ça commence à faire... Et qu'à l'époque, en 1710, il avait déjà une soixantaine d'années. Un certain Morin, secrétaire d'ambassade, affirme qu'il l'a croisé en 1735 en Hollande et qu'il n'a strictement pas changé depuis. Alors, évidemment, tout ça, ça crée... Il y a une rumeur qui naît et qui se développe autour du personnage. En juin 1760, le London Chronicle raconte une anecdote. Le comte de Saint-Germain aurait versé de l'élixir de longue vie dans un verre qu'il aurait tendu à une vieille servante et on aurait vu la vieille servante se transformer en petite fille. On est dans la rumeur, mais évidemment tout ça développe, augmente l'aura du personnage. Tout Paris s'arrache désormais le comte de Saint-Germain. Il devient la gloire des maîtresses de maison qui arrivent à l'avoir pour un dîner. Dans le Marais, à la fin de 1759, on peut dire qu'il est devenu l'invité le plus couru. Tout le monde veut l'avoir, évidemment, à sa table. Il y a même, je ne veux pas entrer là-dedans, il y a même des personnes qui se font passer pour lui. Évidemment, on ne prête qu'aux riches. Le baron de Gleschen nous dit « Je crus voir les trésors de la lampe merveilleuse à propos justement des pierres précieuses que le comte de Saint-Germain promène avec lui. Il y avait, nous dit Gleschen entre autres, une opale d'une grosseur monstrueuse et un saphir blanc de la taille d'un œuf qui effaçait par son éclat celui de toutes les pierres de comparaison qu'on l'on pourrait mettre à côté d'elle. » Là encore, de quoi alimenter la rumeur. D'où viennent ces pierres précieuses? D'où vient la richesse du comte de Saint-Germain? D'autant qu'il se vante de posséder le secret de faire disparaître les taches des diamants. Et du reste, le roi Louis XV, tellement impressionné par ce pouvoir, va confier à Saint-Germain un appartement au château de Chambord afin qu'il puisse tranquillement se livrer à toutes sortes d'expériences. Dans un temps où les sorciers étaient encore si mal vus, avouez évidemment qu'il fallait un certain aplomb. Alors je vous ai dit que Saint-Germain était en lien avec la Rose-Croix. Un certain nombre d'historiens estiment qu'il était effectivement un rosicrucien d'un très haut degré et qu'il tenait un certain nombre de ses savoirs d'une très vieille tradition. Ce qui est certain, c'est que c'est un homme comblé de dons. Il chante, joue merveilleusement du violon et compose même, dit Horace Walpole. Il parle plusieurs langues. On sait du reste qu'il parlait le français avec l'accent piémontais. Il est ambidextre. On peut même lui dicter deux textes. Il écrit chacun avec l'un avec la main droite, l'autre avec la main gauche. C'est assez extraordinaire. Il peint aussi magnifiquement. Et avec, nous dit Madame Duhausset, des pigments extraordinaires dont il aurait pu faire une industrie. Voyez l'incroyable richesse du personnage. À l'ambassadeur de François II d'Autriche, Saint-Germain aurait révélé qu'il s'appelait en réalité Rakowski et qu'il était le fils du prince Rakowski et d'une première épouse qui était née Tekeli, sauf que lorsqu'on va dans les archives en question, on n'en trouve aucune trace d'un fils, d'abord d'une Tekeli et encore moins d'un fils qu'elle aurait eu avec le prince Rakowski. Il se faisait aussi appeler Montferrat, mais ça ne donne rien. Certains ont prétendu qu'il était plutôt le fils naturel de la reine d'Espagne, veuve de Charles II, avec soit un banquier de Madrid, soit le comte de Melgar. Et ça pourrait peut-être mieux expliquer la confiance que lui témoignait le roi Louis XV. Madame Duhausset affirme du reste que le docteur Quesnay, le médecin de Madame de Pompadour, lui aurait dit que Louis XV parlait quelquefois du comte de Saint-Germain comme quelqu'un d'une illustre naissance. Rappelez-vous son éducation, sa fortune, sa recherche de considération, tout ça pourrait évidemment aller dans le même sens. Alors on verra plus tard, le comte de Saint-Germain va littéralement disparaître de France en 1761, et puis par la suite on le retrouve en Angleterre, en Russie, en Italie, en 1776 il est en Saxe, en 1784 on le retrouve chez le margrave de Hesse, et là il meurt, semble-t-il, le 27 février 1784 à 93 ans. Alors voilà, le mystère est résolu. Cet homme-là, qui était tout simplement un mystificateur, est mort, pense-t-on, en 84. sauf qu'il assiste en 1785 au congrès maçonnique de Paris, qu'un mémorialiste affirme l'avoir vu en 1790, que Madame de Genlis le croise à Vienne en 1814 et qu'on le reverra au Tibet en 1905 et même à Rome en 1926. Je ne parle pas du comte de Saint-Germain qui faisait des ravages à Paris dans les années 70, ça c'est une autre histoire. Finalement, ce qu'il y a de fascinant dans ce cas, c'est moins peut-être ce que cet homme a pu faire croire ou laisser croire, c'est peut-être moins ce qu'il faisait que ce qu'on en a dit. Et c'est peut-être moins le mystère d'une existence somme toute pas impossible à percer un jour que tous les bruits, dont certains insensés, qu'on a pu faire courir à son propos. Le comte de Saint-Germain avait en tout cas compris quelque chose, c'est que le mystère était encore le meilleur des viatiques.
Extrait sur Europe 1 de la sonate pour violon et piano interprétée par Natalia Pirchepenko, Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 aux sociétés secrètes, Franck.
Alors évidemment, on n'imagine pas une émission comme celle-ci sans au moins mentionner la franc-maçonnerie, mais c'est tellement spécifique et nous avons déjà eu l'occasion de faire un certain nombre d'émissions sur la franc-maçonnerie, nous en referons d'autres d'ailleurs, peut-être même in situ assez prochainement, sans vous révéler de grands secrets. Donc je préférerais qu'on passe un peu, qu'on glisse là-dessus et qu'on évoque une société alors dont j'ignorais moi jusqu'à l'existence, je le reconnais, jusqu'à ce que je lise votre article, Mohamed Taleb, dans ce numéro spécial hors série du Monde des Religions, c'est la Golden Dawn. Expliquez-nous ce que c'est que cette Golden Dawn.
En fait, c'est pas très loin de ce que vous dites précédemment sur la franc-maçonnerie, parce que les trois fondateurs de cette société initiatique anglaise, qui est née en 1888 et qui a disparu, qui a éclaté en 1900, donc ça a duré
très peu de temps, une douzaine d'années.
Les trois fondateurs sont des maçons anglais qui appartenaient à des loges maçonniques anglaises et en même temps à une organisation initiatique qui s'appelait la Société Rosicrucienne d'Angleterre, qui elle-même dépendait de la Société Rosicrucienne d'Écosse. Donc là, on est vraiment dans des synthèses de synthèses, parce qu'avec la Golden Dawn, on a à la fois l'héritage maçonnique, on a l'héritage rosicrucien, on a énormément d'éléments kabbalistiques, on a bien sûr toute la tradition alchimique, notamment cette dimension opérative de l'alchimie. C'est pas simplement une métamorphose de l'âme, c'est aussi un agissement sur la matière. C'est la raison pour laquelle ces ordres mettent un accent assez important sur la magie. Ce sont des ordres magiques.
Les femmes font partie de cette
Tout
de
à
ce
fait.
Mouvement.
Il y a énormément de femmes dans cette société secrète et c'est justement toute l'ambiguïté ou plus exactement tout le caractère contradictoire des sociétés initiatiques de cette époque. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois aux marges de l'histoire de l'Europe et de l'Occident et en même temps le reflet des contradictions sociale, politique de cette Europe et de cet Occident. Il y a à la fois des dynamiques éminemment conservatrices, réactionnaires, droitières dans ces sociétés secrètes. Et puis en même temps, on a à l'intérieur des dynamiques qui sont celles de l'émancipation et notamment de deux causes qui vont avoir un succès énorme à partir des années 60-70 du XXe siècle, c'est la question du féminisme, de l'émancipation de la femme. Et on peut dire que ces femmes qui sont dans la Golden Dawn sont en quelque sorte l'aile spirituelle du mouvement des suffragettes, en quelque sorte. C'est une sorte d'articulation entre spiritualité et émancipation. Et puis un deuxième aspect qui est également porté par ces femmes, c'est l'écologie. Beaucoup de ces femmes sont à la tête à l'époque de mouvements, par exemple, contre la maltraitance animale. Enfin, il y a aussi une modernité de ces femmes qui sont engagées dans ces mouvements.
J'aurais bien aimé qu'on parle aussi des sociétés secrètes actuelles, contemporaines, dont vous êtes un spécialiste, Alexandre. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, si vous le voulez bien. Sachant que lorsqu'on dit secrètes, elles ne sont pour certaines pas si secrètes qu'elles en ont l'air.
Enfin, c'est-à-dire, c'est une déviation et la Golden Dawn nous forme une parfaite transition. c'est que la franc-maçonnerie n'est pas en aucun cas une société secrète. Elle est fondée sur l'initiation, mais à pignon sur rue. Mais des groupes francs-maçons, originaires de la franc-maçonnerie, régulièrement vivent dans le fantasme d'une société qui permettrait d'accéder à des mystères supérieurs. Généralement, il y a fraude. Hein.
Oui, on peut le penser. Les sociétés secrètes, c'est donc le sujet de ce numéro hors série du Monde des Religions que vous trouvez dans tous les kiosques.